Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. 12 gates to the city. Well.
Et ça le fait rire.
Bah, babalouba, bam, bam, bam. Bah, on lui avait interdit de dire des cochoncetés, alors il dit bon, je vais dire bah, babalouba, bam, 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 ça fait le tour du monde.
Mais c'est des cochonneries.
Et à l'origine, c'est des cochoncetés.
Oui. Sûrement.
Grave. Grave.
Bon, on n'est pas là pour s'amuser. Mon cher Dick Hangard, c'est une idée extrêmement étrange et qui ne plaît jamais aux parents quand on veut devenir chanteur. Pourquoi devenir chanteur? Pourquoi pas mécanicien en vélo, cosmonaute, agent de police, premier ministre? Mais pourquoi chanteur?
Vous remuez le couteau dans la plaie, hein. Tous les jours, je pose la question. Tous les jours, je démissionne. Comme il n'y a pas de patron, tout le monde s'en fout. Bref, je fais ça pas contre cœur, mais j'ai essayé d'autres choses quand même. Périodiquement, j'essaye d'autres choses. Hein, chanteur, c'est quand même 3 minutes, c'est un peu limité, donc... Moi, quand je suis sorti de l'école européenne à Bruxelles, je voulais devenir...
C'est quoi, pardon, l'école européenne?
L'école européenne à Bruxelles, c'était l'école des fonctionnaires du marché commun. Hein.
Et vous avez été fonctionnaire du marché commun?
Non, mon papa...
Quel dommage.
Mon papa a été un peu interprète, et donc de là où je suis né, il a tiré, quand j'avais 6 ans, il a tiré sur la Belgique. Et moi, avec on était 6 à la maison, avec 2 frères et sœurs, Peter Annegaren, Marijke Annegaren, Hanneke Annegaren en Dickie Annegaren. C'était Dickie, Tricky Dickie. C'était le petit Dick, un peu, bon, Tricky, ça veut dire...
Ça veut dire que...
Rusé,
dire
rusé, quoi, un peu.
Oui, c'est ouais. Ça.
Bref, on a tiré, donc, sur Bruxelles, qui avait une école pour accueillir les fonctionnaires, donc allemands, néerlandais, enfin c'était les 6 pays du marché commun à l'origine, France, Luxembourg, Belgique, Hollande, Italie, Allemagne. Et donc, dans cette école européenne, on apprenait toutes les langues, on apprenait, d'ailleurs dans la langue, on était obligé de parler français, d'une part parce qu'on était avec des Belges et des Français dans la même classe, surtout la première année en 52, j'avais donc 6 ans, on était à 8 dans la même classe, et la moitié c'était mes frères et sœurs, pour dire que c'était la guerre, à 8, on a fait la guerre, et donc Bruxelles, j'ai quitté cette école européenne en me disant que j'allais commencer quand même quelque chose d'un peu plus sérieux, parce que mine de rien, on était comme cantonné à la culture gréco-latine, et moi j'avais envie d'aller un peu au-delà, et donc même la pop, ça me satisfaisait peu, donc... J'avais envie de devenir un peu ingénieur agronome, genre faire l'école de Wageningen en Hollande pour faire des travaux hydrauliques pour les pauvres africains asséchés, quoi.
Mais
leur donner de l'eau.
Ceux qui manquaient de tulipes.
Oui, ça avait des tulipes mais pas d'eau, donc bon. Et voilà, donc périodiquement après, j'ai voulu retrouver un peu ça. Bon, c'est un peu un fantasme de citadin, hein. C'était la nature vue de la ville, quoi. Et j'ai fait donc 3 mois d'agronomie. Et c'est là que je me suis
rendu. Pas mal.
Oui, 3 mois j'ai tenu. Et un peu d'antibiotiques, j'allais dire, de macrobiotiques. Donc pour dire que j'ai commencé un peu par accident, quoi. Je suis venu, on avait fait une petite communauté. Bref, cette année, sortie du bac de l'école européenne, j'ai donc je suis venu à Paris un peu par accident, comme ça, en vacances, quoi, en gros. Et voilà, j'y suis encore.
Quelques temps plus tard, dans une émission de télévision, ça s'est passé tout seul, ça s'est passé compliqué, ça s'est passé difficile, de passer de « tiens, je vais faire une chanson » jusqu'à « je suis à la télé, ça y est, ça a l'air d'être
ah,
pour
ça
de
a été
vrai. »
Trop bref, ouais, ça a été trop facile, peut-être, ouais. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que Bruno Cocatrix, 3 ans après, je faisais l'Olympia, Enfin, je faisais déjà l'Olympia 3 mois après la sortie de l'album, pour dire que ça a été vite. Mais à mon troisième Olympia, Bruno Coquetrix, il me prend à part, il me balance quelques ronds de fumée dans la figure, ronds de fumée de cigare. Et puis, il me dit, tiens, ce serait bien que tu fasses le pizza du Marais. Je dis, monsieur Coquetrix, je suis à l'Olympia, là. En fait, il voulait que je fasse marche arrière. Et il croyait pas si bien dire, parce que je l'ai fait quand même depuis. J'ai fait l'aller et le retour après, quoi. Pour dire que, oui, ça a été trop vite, ouais. C'est Jacques Bedos que j'ai un peu... Jacques Bedos était directeur artistique chez Polydor, comme Boris Vian. Et donc, le Bedos, moi, je lui ai chanté dans son bureau, Bruxelles, attends-moi, j'arrive. J'avais mon billet de train, j'avais fait un an de Outnani, de Petit Conservatoire de Mireille. Et donc, d'ailleurs, Mireille, elle aimait pas. Permettez-vous que j'emprunte votre oreille. Histoire... qu'est-ce que vous faites? Je peux continuer, madame? Histoire de raconter l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche comme toutes les mouches. Le soir, elle se couche. À l'aube, elle se réveille. Zouzoum, 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 zouzoum. Et en fait, Mireille préférait que je chante des chansons en anglais. On se demande pourquoi. Parce qu'elle est un peu morte à la fin de la chanson, quoi.
C'est une chanson dure, en plus. Une fausse chanson gentille.
C'est mine de rien, Ubu, Bébé Éléphant et Mireille, c'est des chansons qui sont comme dans la tradition folk. J'aime pas trop le mot parce qu'il a une connotation américaine. Mais bref, Mireille, c'était une histoire qui se racontait sur une puce. Mais le soir, elle se couche, ce matin, bon... Donc il fallait que je l'appelle, que j'en fasse une mouche pour qu'elle se couche. Hein. Mais pour dire qu'à l'origine, c'est une histoire populaire, enfin c'est une histoire qui se racontait dans les bistrots. Hein. Bébé éléphant, c'est une chanson que, enfin je me suis inspiré. Il y avait une chanson d'Alida qui s'appelait Bébé éléphant. Et il y avait aussi Daryl Adams, un banjoiste anglais. Anglais, qui faisait un peu de protestant, qui avait une chanson sur le... Was born in Portland town, was born in Portland town, got married in Portland town, yes I was, j'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus? Et surtout, pourquoi ne me cherchent-ils pas? Je trouve ça ingrat, pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Donc bon, pour dire que j'ai emprunté quand même dans le répertoire populaire, aussi Ubu, c'est « Elle avait de tout petits petons à l'envers ». Elle avait de tout petits petons. Il avait un tout petit zizi. Pour dire que bon...
Mais est-ce que c'est pas ça le Dick Hangard de cette époque? C'est-à-dire des chansons qui ont l'air d'être des chansons douces, des chansons pour enfants. Et puis ça se termine toujours mal, il y a une catastrophe à la fin, il y a un truc épouvantable qui se passe dedans.
Ah bah dans le premier disque, ça s'arrête pas de saigner, ouais. Bah paradoxalement, les enfants, ils sont cruels. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Et donc, oui, enfin... Moi, j'ai toujours été attiré par le blues. D'ailleurs, je chantais du en arrivant à Paris, j'avais pas de chanson en anglais. Je chantais Hesitation Blues, ou, je chantais un peu de Dylan, mais c'est vrai que blanc, comme fils de fonctionnaire de marché commun, normalement, j'avais toutes les raisons d'être heureux, quoi. Hein, 68, un nouveau monde, tout ça. Et non, je veux dire, il y avait quand même... Un blues blanc, quoi, que j'ai du mal à définir. Un mélange d'ennui, de révolte, quand même, d'insatisfaction. Mettons, I can get no satisfaction. Hein, donc, mais, c'est le problème suisse, un peu. Mon problème, c'est que j'avais pas de problème, quoi, et j'avais honte. Et donc, bon, mais j'ai fait saigner un peu l'institutrice. Les éléphants, ils suivent bêtement dans un ravin. Autogénocide collectif. C'est vrai que c'était un peu catastrophe quand même, mais c'était aussi la sortie des films catastrophes. Je me rendais compte que des petits sentiments un peu dépités suffisaient pas. Hein. C'est qu'il fallait faire concurrence aux films catastrophes. Donc bon, j'ai essayé d'être à la hauteur un peu. Non, c'est des exercices de style. J'avais pas vécu grand chose, donc j'avais les catastrophes de mes cauchemars, quoi.
Et donc, ça fonctionne. il y a de la scène, il y a le show business, il y a tout ça, et puis il y a un moment où apparemment ça va plus, avec un célèbre coup d'éclat, et puis après c'est plus Paris, après c'est le Nord à nouveau. Et j'ai l'impression que dans ce que vous faites, il y a toujours un balancement comme ça, Nord-Sud, avec quelqu'un du Nord qui a attiré par le Sud, mais qui revient toujours au Nord, etc. Et ça se voit dans les chansons aussi.
Ouais, c'est un peu... À l'école, je revendiquais, je dis bien, pouvoir aller au-delà d'Athènes, quoi. Je veux dire, le monde ne s'arrête pas aux Grecs. Et donc, l'Europe a eu des connotations, il y a quand même le parti ouvrier européen, hein, il y a quand même des connotations européennes un peu fascisantes, enfin un peu ethnocentriques, mettons. Et donc, c'est vrai que tout le monde me prenait pour un hippie, je voyais partir tous mes collègues partir ou revenir, vers des Indes improbables, vers Marrakech, Katmandou... Moi, c'était Paris-Orléans, MJC d'Orléans. C'était à peu près le bout du monde. J'avais pas beaucoup voyagé, quoi. Et donc, cette frustration de l'école, je l'avais toujours. Paradoxalement, le show business m'a pas fait voyager tant que ça. Hein, et donc, Polydor, il voulait me payer des petites boucles d'oreilles pour que je fasse bien hippie, grand voyageur devant l'éternel, là où j'avais rien vu, quoi. Et donc, pour dire que c'est... On a toujours un peu interprété ça négativement, mon attitude par rapport au métier. Moi, je trouve que le métier est insuffisant. C'est pas tant qu'il m'empêche de voyager, mais il me permet pas de voyager. Par exemple, l'Alliance française, c'est quoi, me chasse gardée un peu. Je veux dire, c'est pas du showbiz. Je veux dire, j'aime pas beaucoup être limité à une critique du showbiz. Surtout comme ayant une culture philosophique germanique, pour moi critique c'est positif, c'est essayer d'aller au-delà quoi des possibilités. Et je trouvais que la pop, le folk était quand même un plus que je pouvais apporter au show business, enfin à la variété plutôt. Hein, show business c'est un mot que j'ai du mal à utiliser, je le trouve.
Le mot variété c'est un mot très français. D'ailleurs, on ne dit pas ça quoi.
Ah moi j'aime
variété
bien.
Parce que c'est varié, parce qu'on fait des choses variées.
Les Allemands ils disent Schlager. Bah pop peut-être pop, mais bon bref la course aux adjectifs c'est pas trop mon sport favori. Je voulais en tout cas voyager aussi socialement. Je veux dire, je m'étais rendu compte que artiste c'est quand même un handicap, hein, social. On est un peu coupé du monde quand même.
Alors c'est un handicap.
Oui bah c'est-à-dire c'est un handicap. Quand on est exclusif, oui. C'est aux artistes eux-mêmes aussi de se ressourcer. Je veux dire, pour dire que je me suis mis à la retraite moi-même un peu. Hein, j'ai voulu compléter en fait ma culture. J'ai voulu voyager. Je dis bien socialement. En gros, le pizza du marais, le cabaret que voulait me faire balayer Cocatrix, j'ai été le chercher moi-même un peu. Et c'est vrai que ça m'a plus grandi que de faire l'Olympia. C'est facile de faire l'Olympia. D'ailleurs, c'est Barbara qui dit ça. Elle dit que c'est plus difficile de faire le pizza du marais parce qu'on voit les petits pas sous les portes, où parfois les portes sont ouvertes, donc on chante, on essaye d'attraper les gens dans la rue, hein, qui n'en ont rien à faire. Là où au Zénith, tout le monde vient pour vous, et donc bon, c'est plus facile de conquérir des gens déjà conquis. Hein, que le petit cabaret où les gens ils pensent qu'à une chose, c'est draguer leur voisine et essayer de décornifler une boisson sur trois, et que le chanteur c'est un prétexte quoi. Enfin pour dire que j'ai voulu vivre cette difficulté quoi. J'ai oublié de vivre. Un peu ça hein, quand même. Pour dire que positivement donc enfin c'est déjà assez tard. C'est vrai que c'était des années assez denses quand même. Je veux dire en 3 ans. J'ai fait Bobino, l'Olympia, Bruxelles, qui a quand même été un titre pas mal diffusé. Et donc, j'avais 22 ans. D'une part, j'ai perdu tous mes amis gauchistes. En 6 mois, j'étais devenu un social traître, hein, parce que je passais à Europe 1, j'avais fait l'Olympia. Donc, voilà. J'étais un peu coincé, quoi. Les quelques amis que j'avais fait, je les ai perdus. Michel, je l'ai chanté dans une chanson, j'ai perdu aussi. Voilà. Donc c'était quand même un peu
C'était un peu lourd, pesant, tout
oui,
ça.
Oui.
Et alors, après le clash, le retour au Nord, qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord? Le moment où on sait plus ce que vous avez fait.
Ça
fait pas longtemps.
Ça fait 4 ans que je suis là, que j'habite réellement, mais c'est vrai que j'étais beaucoup accueilli. C'est comme Lille, Roubaix, Villeneuve-d'Ascq, bon, Reims, Metz, ces villes un peu dures qui m'ont accueilli bien, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'étais bien accueilli là, et périodiquement, c'est vrai que j'ai cherché des baraques là-bas. Bon, ben, j'ai été chercher mes péniches à Anvers aussi. Je veux dire, c'est vrai que c'est une attirance. C'est-à-dire, je vais chercher des bateaux dans le Nord pour les amener dans le Sud, quoi, en gros. C'est vrai. Mais, ça a été des valises, quand même, tout le temps. Je veux dire, parce que même à Paris, j'ai jamais été vraiment installé, quoi. Je veux dire, mais le Nord, je reniais I hate the white man under plastic excuse. Je veux dire, je suis assez fâché avec l'homme blanc, quand même. Je suis pas très fier, moi, des Hollandais américains ou des Hollandais germaniques. Bon. Je suis pas fier de ma race, c'est vrai. Je préfère qu'on m'appelle le beurre hollandais, comme on l'a fait. Là, je suis assez fier. Parce qu'il y a les deux, justement. Il y a cette volonté de glisser vers le sud. Et il y a maintenant, bon, maintenant, j'assume de nouveau mes racines, quoi. Depuis que j'ai appris qu'il y a tel Eulenspiegel, tel l'espiègle, les gueux. D'ailleurs, mes péniches s'appelaient les gueux. Un s'appelait le gueux et l'autre la gueuse. Et donc ces péniches, j'étais les chercher à Anvers. Et j'étais à Calcèche, par exemple, à Pont-à-Vendin. C'est là où on apprend la réelle valeur de la chanson. J'étais dans une gare d'eau avec ces péniches. Enfin, avec une des péniches qu'il fallait souder un nouveau fond. Et puis, il y avait un gars, il aimait bien Michel Sardou, Maxime Le Forestier et Dick Ingarn. Je dis, on n'est pas grand-chose, quand même. Hein? Et il est chanté dans la foulée, quoi. D'ailleurs, je l'ai revu 15 ans après, il n'y a pas longtemps. Lui, il voulait chanter, bon, avec la bière, c'était déjà un peu plus difficile. Mais pour dire que les chaudronniers, dans le Nord, ils sont plus près de l'essence de la chanson, quoi. Ils chantaient Ubu, ils chantaient « Je n'ai pas l'âge de mes artères », bon, ils chantaient Michel Sardou. Et Maxime Le Forestier, donc lui, gauche-droite, il en avait rien à faire, il fallait que ça chante, il fallait que ça dise quelque chose, et en effet, bon, j'avoue que Michel Sardou, on n'est pas du même bord politique, mais c'est une plume, dans le Nord, je n'ai pas l'âge de mes artères, ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est, à la limite, c'est un chanteur crédible, que j'ai découvert dans le Nord, dans une cale sèche rouillée. Pour dire que ce Nord, bon, c'est une collection d'horreurs quand même un peu, une collection de monstres, que j'ai retrouvé récemment, donc depuis 4 ans, j'y suis très bien, parce que c'est des gentils monstres. Et paradoxalement, dans le Sud, c'est pas toujours... les yeux de biche ne cachent souvent quand même un peu de business, je veux dire, pour dire que le Sud, j'en fais pas une religion non plus.
Alors j'arrivais au Sud, c'est important aussi ce Sud-là, et même le Sud-Sud.
Absolument.
Parce que tu as trouvé des gens qui t'intéressaient dans le Sud aussi.
Les Berbères, c'est la même origine que les Barbares. Hein, c'est les gens, c'est des non-Roms en fait. Moi, ils m'appellent le Roumi. Quand ils me traitent en vulgaire étranger, ils m'appellent Rice Dick. Quand il me parle en tant que musicien. Et mine de rien, le musicien est une société qui respecte pas ses artistes est une société décadente. Et donc moi je crois qu'on est dans une société décadente. Rapport à ça. Et dans le Sud, je connais surtout le Maroc, hein, j'étais en Éthiopie aussi un peu, j'ai fait le Maghreb complètement. 78, d'ailleurs, c'est assez tôt. Mais pour dire que dans le Sud, la musique fait partie des mariages, fait partie des rituels. On chante dans les bus, dans les autobus. On chante en marchant. Hein, et un chanteur, d'ailleurs, n'est pas un chanteur professionnel, nécessairement. Moi, mon ami Rice Mohando. Rice, ça veut dire prince. Bah, c'est un peu comme il y avait Duke Ellington, c'est les titres de noblesse, quoi. Le Duke Ellington, le comte Bézi, le prince Annegarn. Hein, Rice Dick ou le prince Mahand, mon ami berbère, ou le prince, hein, prince. Donc bref, là-bas, on a des lettres noblesse, on fait partie d'une espèce de noblesse de l'esprit, et en même temps, bon ben, ça devrait pas m'empêcher d'aller pêcher ou d'aller travailler. Va travailler l'artiste. C'est, là-bas, c'est pas une insulte. Tout ça, ça fait partie d'un rôle quand même plus abordable pour moi. Enfin, je veux dire, ici, c'est vrai que j'ai connu les deux, quoi. Je veux dire, il y a des bravos qui font mal et il y a des oublis qui font mal aussi. Je veux dire, ça c'est excessif, quoi, la vie d'artiste.
Alors, vous dites toujours que les chansons, elles sont très rarement en rapport direct avec ce que vous avez vécu. Elles sont pas autobiographiques. Mais c'est difficile d'imaginer que toutes ces époques-là n'ont pas laissé des traces dans les chansons.
Ben, yo, ici, l'Algérie, j'étais parti avec un break, avec une caravane, à moi tout seul. Et puis, je voulais voir le désert, quoi. Et puis, il faisait déjà un peu nuit, c'est le crépuscule. Et donc moi, comme un fou, j'ai foncé sur une route goudronnée. Je dis, je peux y aller, il n'y a personne. Je sais pas. Est-ce que c'est loin, dit le sable du Sahara? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est bien dit, Aoud Berkaoui, Bourj el Bahari? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Bon, moi, il me fait da 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 da. Un itinérant traversant des traces de vieux pneus. Un malveillant t'as failli me faire une peur bleue. Enfin bref, il y a un âne qui a traversé ma route, qui m'a freiné, il m'a dit doucement toi. On aborde le désert avec prudence. Et donc c'est vrai que bon bah j'étais accompagné, parce que c'est ça aussi qui m'a donné quand même un... Et ça rejoint un peu ce qu'on dit, c'est que dans le nord on trouve des choses qu'il y a dans le sud, c'est-à-dire à Lille. On rentre dans un café et on serre la main même aux gens qu'on connaît pas. Et dans le sud, c'est pareil. Je veux dire, on n'est jamais seul, quoi, dans un désert. Il y a toujours quelqu'un... On peut pas tomber en panne, vraiment, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui vient avec son fer à souder solaire ou son petit outil pour aider, quoi. Pour aider ou pour faire un échange, quoi. Le commerce est une chose noble. Et c'est aussi le commerce des idées, la rencontre, quoi. Je veux dire, j'ai été très très bien accueilli, quoi, chez les Arabes et chez les Berbères.
Et vous saviez ce que vous alliez trouver là-bas? Une balade comme celle-là, par exemple, une balade tardive. C'est plus une balade de jeune homme, c'est plus une balade de, oui, de 18 ans, mais une balade tardive. On va chercher quelque chose quand on va comme ça, quand on décide d'aller dans le sud, quand on est un vrai nordique ou...
Ben, moi, j'aime pas la notion de vacances. Je veux dire, déjà, un artiste en vacances, ça veut rien dire. Je veux dire, on a des vacances quand on veut pas et bon... je veux dire, donc je m'étais donné un objectif, une espèce d'objet d'étude. Je voulais aller voir ce que ça veut dire jazz, enfin ce que c'est, le jazz, c'est-à-dire, et le blues que je chantais. J'avais du mal à, je connais pas l'Afrique noire vraiment, mais mélodiquement, j'ai voulu en fait explorer cette musique que je ne connaissais pas et essayer de trouver un lien entre le blues. Et j'ai pas mal réussi, parce que j'ai trouvé déjà étymologiquement. Hijaz, c'est une gamme. Hein, ça va, toi, c'est une gamme. C'est... Donc pour dire que Hijaz, c'est une gamme qui est assez loin du jazz, franchement. Mais Hijaz, surtout, c'est un principe coranique de l'inimitabilité. Et moi, je dis que Miles Davis, il est hijaz. C'est-à-dire, il est inimitable. Il fait deux notes, on le reconnaît. Et dans la musique arabe, il y a beaucoup d'emprunts. C'est-à-dire, celui qui trouve une fioriture, hein, qui trouve une combinaison de trois notes, il est connu, sans avoir enregistré de disque, sans être passé à la radio, il est connu juste...
Pour ça.
Pour sa contribution, pour sa combinaison, hein, qui est inimitable, que avant lui, on n'a pas trouvé, on fait après lui, bon, on peut le copier un peu, mais je veux dire...
Mais c'est comme les pianistes de Boogie, ils avaient celui qui avait une ligne de basse à lui, c'était voilà. La sienne, et les autres la recopiaient éventuellement, voilà. Si ça leur plaisait.
Et la complétaient. Et donc, bon, on retrouve aussi ce qui est propre au folk, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, on transmet, comme c'est pas enregistré sur un disque, de mémoire, on refait sa tradition, on en fait une nouvelle musique, quoi.
Est-ce que Dick Hangard a déjà entendu des gens qui ont traité ces chansons de cette façon-là?
La première...
Les tripotant, les changeant,
J'ai entendu une version de Hard Rock des Bébés Éléphants.
Non.
On reconnaît pas du tout. On reconnaît pas du tout, sauf que c'est vraiment éléphantesque, quoi. Et oui, enfin, moi, mes chansons sont chantées... dans les veillées, scouts, MJC, colonies de vacances, Mireille est chantée, Ubu est chantée, le Zizi est chanté par moi je soupçonne les enfants de chercher le disque de leurs parents pour trouver cet engin à taille variable. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi, et chacun pour soi, il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. Alors on ne sait pas que c'est basé sur une œuvre littéraire quand même, hein, mais... qui a été écrit à l'école quand même aussi. Jarry, c'était le...
Il y a beaucoup de gens, Jarry n'est pas quand même l'auteur français le plus connu, mais il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à Jarry, qui est la souterrain dans la tête de beaucoup de personnes, quoi. Les Palotins, Ubu, la mère Ubu, tout ça c'est devenu un bout de la culture française, et pas seulement française, parce que...
Il y a une version de bulgare, j'ai vu, il donnait à Sofian, il y a une version du Ubu qui a été donnée ici d'ailleurs. Uh-huh. Moi, la première fois que j'ai vu Ubu, c'est par Topor.
Hein. Ah oui, c'était très bien.
Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était quand même une pièce de fête de fin d'année, quoi. C'est un peu
C'est la plus célèbre de toutes les pièces de fin d'année.
Oui. Ouais. Voilà.
Wyatt s'est intéressé à la gidouille. Il y a beaucoup de gens qui sont...
Soft Machine, ils ont fait...
Machine avait fait des choses
pataphysiques.
Pataphysiques, oui.
Et c'est vrai que, donc, bon, cette pataphysique, ça m'a pas mal habité, c'est-à-dire Oulipo aussi.
Oulipo, oui. Hein, l'ouvroir de littérature potentielle,
de littérature potentielle, François le Lyonnais, Georges Perec et tout ça. Donc, je me suis rendu compte que la littérature auquel je m'étais jamais intéressé, franchement, je m'étais intéressé à la culture orale. D'ailleurs, Kono a quand même écrit l'histoire de la littérature orale et orientale pour dire que j'ai commencé en fait mon voyage quand j'ai quitté quand j'ai quitté la compétition. C'est là que j'ai commencé à courir lentement dans les autres cultures, à explorer, quoi. Et bon, je veux dire, j'avais déjà un peu de tendance au jeu de mots. C'est un peu le lot des étrangers à qui il manque un mot. Ils en détournent un autre pour le rendre explicite, quoi. Pour dire que j'étais déjà un peu périphérique. J'étais déjà un épiphénomène rapport à Paris, quoi, au phénomène parisien. Je considère que c'est une chance d'être étranger. Et cet étranger, je l'ai transformé en étrange, un peu, quoi. Et donc bon, ben, c'est la pataphysique m'a autorisé ça, m'a permis de jouer avec les mots aussi MAUX, parce que mine de rien, c'est quand même ça peut être sanguillonnant. Enfin, on a le droit d'être cruel, quoi, en pataphysique. On n'a pas nécessairement l'obligation d'être suave et sympathique et droit de l'homiste. On peut aussi être injuste. Ubu a le droit d'être injuste. Hein, on l'aime quand même. C'est une teigne, franchement. J'ai un voisin dans ma cour, c'est Ubu. Bon, il me terrorise et je l'adore. Il est odieux et génial. Il y a une espèce de logique. Donc pour dire que la pataphysique, ça m'a permis, oui, d'écrire Ubu, mais pas seulement. Hein, je veux dire, ça m'a permis d'écrire aussi une institutrice un peu équivoque, quoi. À vrai dire, bon, tout le côté conte ne vient pas de chez eux, parce qu'ils sont quand même... c'est un peu comme... enfin, ils sont un peu fâchés avec l'adolescence, quand même. C'est-à-dire, d'ailleurs, Queneau, il aime ni les oiseaux, ni les enfants, ou cheval, enfin... Il détestait les enfants. Et pour dire que...
Comme de W.C. Field aussi.
Ah oui, oui, juste. W.C. Field. Ben, pour dire que... J'ai pris ma retraite à 25 ans. Je trouvais que ça suffisait, le rock'n'roll, toute cette fantasmagorie, un peu à hallucinatoire, un peu mégalomaniaque et tout ça, je dirais... J'ai entendu bon que Pink Floyd ça permettait aux prisonniers de s'évader de leur prison, hein, et qu'il y en avait des chanteurs français qui verraient bien les Kids l'acclamer dans les stades. Je dis stop, moi je contribue plus à ça. C'est le grand catalogue des aliénations. Présenter ça comme, enfin je veux dire, il y a un petit côté cinéma vérité que
De toute façon, je crois que quand on parle des enfants en français en les appelant les kids, c'est déjà un mauvais signe.
Hein. Bah oui. Je veux dire, mine de rien, il y a beaucoup de chanteurs. Je crois pas qu'il y ait un chanteur qui n'ait pas chanté New York. Il y avait Yves, peut-être pas Yves Duteil, mais Yves Simon, le téléphone, hein, tous ces gens qui auraient pu sortir de la boue européenne, quelque chose de bien européen, hein, type tchécoslovaque ou je sais pas quoi, enfin je veux dire, bah non, c'est, on y va toujours à l'Aude, à l'Amérique, c'est un Amérique.
Et là où vous
n'avez
pas
quoi.
Fait ça, vous?
Bah non.
Vous avez déjà été?
Non.
Pas envie?
Non. Ils sont comme moi en pire. C'est pas la peine que j'y aille. C'est des... Non, l'Amérique, je suis pas raciste, mais j'aime pas les blancs. Voilà. Là-bas, ils sont encore plus blancs qu'ici. Et surtout, j'ai peur je suis sûr de rencontrer beaucoup de misère, beaucoup de drogue, beaucoup de tension, beaucoup de criminalité. Mais j'ai jamais été, donc théoriquement, je peux pas en parler, mais enfin, est-ce qu'on peut éviter l'Amérique? Non. Je veux dire, ici, il y a quand même beaucoup plus de culture américaine que de culture tchécoslovaque. Le mur a deux côtés. Hein, et, bref. Donc pour dire que non, et je suis fâché avec l'Amérique, oui, je suis fâché avec, America, hein. Il y a Claude Sicre des Fabulous Troubadours, il a écrit un livre qui s'appelle Amérique avec un K. Il s'est beaucoup inspiré, le gospel, le talking blues, hein. Et mine de rien, bon, par exemple, ces Fabulous Troubadours, ils font renouer avec la culture européenne, dans la mesure où les joutes verbales, le rap, c'est une vieille discipline, en fait. Enfin, une vieille discipline, un vieux jeu, hein, que de jouer avec des mots. Les paysans se mettaient l'un en face de l'autre, et ils se mettaient dans des états, et puis ils variaient sur un thème. Je veux dire, la joute verbale et le rap, c'est des... Ça peut... On n'a pas besoin d'être les New York Lost Poets pour faire du rap. Hein? De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, qui marchent sur la terre ou nagent dans la mer, de Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sot des animaux, à mon avis, c'est l'homme. Boileau, Nicolas Boileau, 17e siècle.
Et alors, demain, qu'est-ce qui se passe?
J'ai 45 ans, donc je peux difficilement me faire passer pour un jeune aujourd'hui. Mais quand même,
en insistant.
Comment?
En insistant.
Oui, non mais c'est vrai que j'ai pas trop honte déjà de ce que j'ai fait il y a 20 ans. Je veux dire, comme le monde a tellement peu évolué, peu progressé, ça peut encore paraître un peu progressiste aujourd'hui, mais enfin pour moi progresser c'est un verbe. Hein, c'est une chose à soigner, il faut éviter de se répéter bêtement, de s'auto-imiter. Donc demain, moi je voudrais profiter... de mes nouvelles chansons, profiter de l'engouement d'un public jeune pour essayer de d'être là aussi sur les autoroutes nouvelles. Mais enfin, ces autoroutes, en espérant que c'est des autoroutes un peu comme les autoroutes belges, quoi, avec un peu d'herbe entre les plaques de béton. quelle belle vallée. Un Vixi plein, un Vixi près. Un Vixi reine, un Vixi fée. Elle est... Quelle belle vallée que je m'en vais te raconter. Que je m'en vais te rencontrer à pied. Les oiseaux ont les os creux comme des haricots. Les fourmis font leur nid aux racines des pissenlits. Les radeaux ont le dos qui font frémir les roseaux. Les radis sont petits, c'est pour ouvrir l'appétit. Quelle belle vallée avec ses fermes et ses fermiers. Avec ses graines et ses greniers bondés. Quelle belle vallée avec ses cucurbitacées. Avec ses cultures labourées l'été.